Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 28 octobre 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Attentat à Shiraz, les condamnations internationales affluent. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les Iraniens organisent des rassemblements dans tout le pays pour condamner l'attaque terroriste de Shiraz. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran annonce avoir repoussé une nouvelle attaque terroriste dans la ville de Shiraz au sud. Et puis, le président Raïsi félicite le nouveau premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani pour son élection. C'était les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les Iraniens ont organisé des rassemblements dans tout le pays pour condamner l'attaque terroriste mercredi dans la ville méridionale de Shiraz. Les manifestants sont descendus dans les rues de différentes villes après la prière du vendredi. Ils ont scandé des slogans et brandi des banderoles appelant à ce que les auteurs de ce crime soient traduits en justice. Au moins 15 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées après qu'un homme armé a ouvert le feu sur des pèlerins au sanctuaire sacré de Shah Cheragh à Shiraz. 26 autres ont également été blessés. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Les autorités iraniennes ont promis une réponse ferme à l'attaque terroriste, affirmant que les auteurs et leurs partisans seront punis. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran annonçait qu'il avait déjoué une nouvelle attaque terroriste dans la ville de Shiraz, dans le sud du pays, où Daesh a revendiqué la fusillade meurtrière, je vous le disais, qui a visé mercredi des pèlerins et le personnel d'un lieu saint. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que son unité de renseignement avait détecté et déjoué un attentat à la bombe qui devait viser une rue bondée de cette ville touristique du sud. Le gouverneur de Shiraz a également déclaré que le terroriste, qui est actuellement en détention, cherchait à faire exploser une bombe dans la rue bondée jeudi soir. La ville située dans la province du Fars pleure la mort de 15 personnes tuées au cours des fusillades. Plus de 20 autres ont également été blessés dans l'attaque du sanctuaire de Shah Cheragh, qui est l'un des lieux de pèlerinage les plus populaires en Iran. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué l'attaque. Le tireur, un ressortissant étranger, a pénétré dans le sanctuaire par l'une des entrées. Il s'est ensuite rendu dans l'enceinte principale, où il a ouvert le feu sur les pèlerins et le personnel. Selon les autorités, l'assaillant de 30 ans a été blessé et a subi plusieurs opérations chirurgicales pendant sa garde à vue. Toutefois, des informations non confirmées font état de sa mort. Sachez également que 2 membres de l'organisation de la mobilisation populaire iranienne Basij sont tombés en martyr à Amol, dans la province de Mazandaran, au nord de l'Iran, lors d'une attaque terroriste. Le vice-gouverneur aux affaires politiques, sécuritaires et sociales de la province de Mazandaran a déclaré « Ces 2 personnes ont été visées par des balles de pistolet dans une ruelle loin des manifestations ». 8 armes à feu sont également saisies au nord-ouest de l'Iran. 8 armes à feu illégales, armes de guerre et armes de chasse ont été saisies dans la province de l'Azerbaïdjan de l'Ouest, a déclaré le commandant de la police de cette province frontalière au nord-ouest de l'Iran. Suite à une opération de reconnaissance et de renseignement, la police de sécurité de la province de l'Azerbaïdjan de l'Ouest a identifié des éléments qui avaient l'intention de faire filtrer des armes à feu via cette province vers les régions internes du pays, a ajouté le général Rahim Jahanbakhsh. Selon ce responsable iranien, 2 équipes de ces trafiquants sont arrêtées dans les routes Urmia-Oshnaviya et Urmia-Mahabad. 4 personnes sont également arrêtées dans cette opération de la police iranienne. Un cadavre retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion Lufthansa en provenance de Téhéran. Il n'y a aucune information documentée du côté allemand. À propos d'une annonce par Lufthansa Airlines qu'un corps a été retrouvé à bord d'un vol appartenant à la compagnie hier, jeudi, en provenance de Téhéran à Francfort, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé qu'il était au courant de l'affaire depuis hier, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune information documentée de la partie allemande à ce sujet. En réponse à une question de journaliste concernant la découverte d'un corps sur un vol Lufthansa hier sur la liaison Téhéran-Francfort, le département des relations publiques du ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué annonçant « Le ministère des Affaires étrangères a été informé de l'affaire depuis hier. Cette question est suivie par le consulat de la République islamique à Francfort et l'ambassade de notre pays à Berlin après avoir pris des contacts avec les autorités allemandes. Mais jusqu'à présent, aucune information documentée n'a été reçue de la partie allemande. » Les relations publiques du ministère iranien ont fait savoir qu'elles annonceraient cette affaire en cas d'obtention de plus d'informations. L'Occident, qui se dit civilisé, a assassiné Soleimani, déplore le président russe Vladimir Poutine. M. Poutine, soulignant que le colonialisme a aveuglé les yeux de l'Occident, a déclaré que l'Occident, qui se dit civilisé, avait assassiné le très haut général iranien Qassem Soleimani. Intervenant devant un parterre d'experts internationaux lors d'une réunion du club de discussion Valdeï à Moscou et s'exprimant à l'occasion d'un discours très critique envers l'Occident, agressif et néocolonial selon ses mots, le président russe Vladimir Poutine a ajouté « L'Occident, qui revendique la civilisation, change les règles du jeu en fonction de ses propres intérêts ». Se prétendant à la civilisation, a organisé un coup d'État en Ukraine et assassiné Qassem Soleimani. Le président russe a poursuivi « Ils sont intervenus, ils ont tué Soleimani, le général iranien. Ils l'ont tué et ont dit « Vie, nous l'avons tué ». Qu'est-ce que cela signifie? Où vivons-nous? Ils sont complètement fous », a dit Poutine. Le président russe a poursuivi « La majorité absolue des pays exige actuellement la démocratie dans les affaires internationales, sans accepter les dictats des gouvernements unilatéralistes. » Il a précisé « Les nazis ont brûlé les livres et en Occident, ils ont même allé jusqu'à interdire Dostoïevski et Tchaïkovski. » Tout point de vue alternatif en Occident est annoncé comme une propagande subversive et une menace pour la démocratie. À l'occidental, tout ne peut pas être imputé au Kremlin, a insisté le président russe. Vladimir Poutine a également déclaré à propos de l'ordre mondial, dixit, il revient à l'Occident à ouvrir le dialogue avec les nouveaux foyers de l'ordre mondial. L'Occident doit entamer le dialogue partout. Ils vont mieux agir le plus tôt possible. Vladimir Poutine, s'attardant également sur la situation actuelle prévalant dans le monde, a déclaré que ceux qui possèdent le pouvoir veulent vivre sans aucune loi. Le président de la Russie a souligné que l'Occident cherche à contrôler les ressources du monde et que le colonialisme les a aveuglés. Enfin, le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, félicite le nouveau premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani. Dans une lettre qu'il a envoyée à Mohammad Shia al-Soudani, le président Raisi a souhaité succès au nouveau gouvernement irakien dans la croissance et le progrès de l'Irak, ajoutant que l'existence d'un Irak développé, indépendant et fort avec un rôle positif et constructif contribuerait à parvenir à la sécurité dans la région. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci.
Thank you.
attentats à Shiraz, les condamnations internationales affluent. L'attaque terroriste contre le sanctuaire iranien suscite une vague de condamnations internationales. L'Égypte, le Liban, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont condamné l'attaque terroriste à Shiraz suite aux réactions mondiales à l'attaque terroriste contre le sanctuaire sacré de Chacharaq. Les pays de l'Égypte, du Liban, des Émirats arabes unis et de Bahreïn ont condamné cet acte terroriste en publiant des déclarations séparées. Le gouvernement égyptien a condamné l'attaque terroriste contre le sanctuaire sacré de Chacharaq, qui a entraîné la mort de 15 personnes, dont 2 enfants et 19 blessés parmi les pèlerins et le personnel serviteur. Dans son communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le ministère des Affaires étrangères du Liban a également réagi en publiant une déclaration condamnant la mort en martyr d'un groupe d'Iraniens dans l'attaque terroriste contre Chacharaq. Le ministère libanais des Affaires étrangères, tout en exprimant sa sympathie et sa compassion avec le gouvernement et le peuple iranien, a exigé une action décisive contre les auteurs de ce crime. Les Émirats arabes unis ont également publié une déclaration sur le site internet de son ministère des Affaires étrangères, condamnant l'attaque terroriste daéchiste contre les pèlerins du sanctuaire sacré. Les Émirats arabes unis condamnent fermement l'attaque terroriste qui a visé un sanctuaire religieux à Shiraz et a fait des dizaines de morts et de blessés, peut-on lire dans la déclaration du ministère émirati. Le ministère a également exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et à la nation iranienne et aux familles des victimes de ce crime odieux et a également souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés. En outre, le ministère des Affaires étrangères de Bahreïn a condamné l'attaque terroriste du groupe daéchiste en publiant un message sur le site internet toujours de ce ministère. Le message du ministère des Affaires étrangères de Bahreïn indique « Ce ministère exprime ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple iranien ainsi qu'aux familles des victimes de ce crime odieux et souhaite également un prompt rétablissement à tous les blessés. » Plus tôt, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement dénoncé l'attaque et a appelé à traduire les auteurs en justice. Pendant ce temps, le président russe, Vladimir Poutine, a exprimé sa sympathie à son homologue iranien, Ebrahim Raisi. Poutine a déclaré que Moscou était prêt à renforcer sa coopération avec Téhéran pour lutter contre le terrorisme. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a également exprimé le soutien de Pékin aux efforts antiterroristes de l'Iran. À cela s'ajoutent les réactions depuis la Syrie, le Pakistan, la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie, Oman et le Yémen. Ils ont condamné l'acte terroriste et envoyé leur message de condoléances au peuple iranien. À cela s'ajoute une condamnation depuis la Finlande en tant que premier pays européen à réagir à ce drame. Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a publié un message un jour après l'attaque terroriste à Shiraz pour condamner cet acte terroriste et a exprimé son profond regret. Dans ce message, on peut lire « Nous sommes profondément attristés et nos pensées vont aux familles des victimes ». Suite à l'attaque terroriste contre les pèlerins dans le sanctuaire de Chacharaq à Shiraz, dans le sud-ouest iranien, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a publié le jeudi 27 octobre sur sa page Instagram des photos de cette opération terroriste lâche et écrit « L'attentat terroriste contre les pèlerins dans le sanctuaire de Chacharaq visait l'Iran et tous les Iraniens ». L'expérience a montré que lorsque leur politique ne fonctionne pas, ils optent pour les actions terroristes. Les terroristes ignorent ce que sont des lieux saints, la pitié envers les femmes et les enfants, déplore-t-il. La destruction et le massacre de millions de personnes résultent de décennies de politique des États-Unis et de leurs alliés dans la région. Au cours des 40 derniers jours, à travers leurs propos apparemment humanitaires, ils veulent que le peuple iranien vive des scènes de violence et d'effusion de sang. Et ceux qui croient qu'il y a de bons et de mauvais terrorisme prétendent aussi qu'il y a de bonnes et de mauvaises violences. Et ils font de leur mieux pour intensifier la violence et la terreur contre le peuple iranien, a-t-il encore déploré. D'autre part, réagissant toujours à l'acte terroriste, le secrétaire du siège iranien pour les droits de l'homme a écrit « Pourquoi les défenseurs des droits de l'homme sont-ils silencieux face à cet acte terroriste meurtrier ? Les terroristes continuent de tuer les innocents en Iran. Au cours des 4 dernières décennies, plus de 17 000 personnes ont été assassinées en Iran lors d'attentats terroristes », a-t-il encore déploré. Soulignant que les terroristes sont en Europe et en Amérique et qu'ils bénéficient du soutien de ces derniers, Kazem Gharibabadi s'interroge « Pourquoi les instances des droits de l'homme sont-elles silencieuses face à cet acte terroriste meurtrier ?»
Bonjour à tous, bienvenue à partir des studios de Téhéran. Aujourd'hui, un sujet dont on ne parle pas assez, la situation en Palestine, notamment également en Cisjordanie, à Naplouse. Chaque jour, imaginez des familles qui ne savent pas si leurs enfants vont revenir à la maison. C'est la situation actuelle en Palestine. Les ONG n'arrêtent pas d'alarmer les médias et les autres pays et continents, mais aucune information n'est divulguée concernant le nombre de morts par jour. C'est le sujet d'aujourd'hui. Comme d'habitude, nous avons préparé un petit reportage qui vous situe la situation. Et ensuite, nos deux invités viendront débattre. Tout de suite, je vous propose donc notre reportage.
Les forces israéliennes ont mené dans la nuit du lundi au mardi 25 octobre une série de raids à travers la Cisjordanie occupée, causant la mort de moins 5 Palestiniens et plus de 20 blessés. Plusieurs quartiers de la vieille ville de Naplouse ainsi qu'une ville au nord de Ramallah étaient visés, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Le raid sur Naplouse a fait 4 morts parmi les Palestiniens, dont l'un des chefs du groupe de résistance Fosse au Lion, nommé Wahid Al-Hou. Un 5e Palestinien, un adolescent, a trouvé la mort dans la ville de Nabi Saleh, au nord de Ramallah. Il a été touché à la poitrine par des tirs à balles réelles des forces israéliennes, a rapporté Wafa. Au total, 21 Palestiniens ont été blessés lors des raids de ce mardi. 4 d'entre eux se trouvent dans un état critique. Zahir Jabarin, membre du bureau politique du mouvement de résistance du Hamas basé à Gaza, a publié une déclaration. Déplorant la mort des Palestiniens lors du raid des forces israéliennes sur Naplouse. Le Hamas a salué les combattants héroïques de la résistance du groupe Fosse au Lion qui se dresse courageusement contre les forces d'occupation. Nous appelons notre peuple et nos combattants de la résistance à s'opposer à l'occupation et à la combattre, a-t-il réitéré. Au moins 175 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, illégalement occupés et dans la bande de Gaza siégée depuis le début de 2022, dont 51 Palestiniens lors de l'assaut de 3 jours d'Israël sur Gaza en août dernier, selon le ministère palestinien de la Santé. Des groupes de défense des droits de l'homme ont condamné l'usage excessif de la force par Israël et sa politique de tirer pour tuer contre les Palestiniens. Par ailleurs, Amnesty International a appelé mardi à une enquête de la Cour pénale internationale CPI sur de possibles crimes de guerre lors de l'escalade dans la bande de Gaza en août.
Bonjour à tous. Donc, nous revoilà pour notre débat. Nos deux invités, Madame Aïssar Midani, donc à partir de Damas, experte des questions internationales. Bonjour Madame Midani, ravie de vous revoir sur nos plateaux.
Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à votre invité et merci de votre invitation. Et bonjour.
Notre deuxième invité, Monsieur Imad Deddin Amrouni. Bonjour Monsieur Amrouni, ravi également de vous avoir sur le plateau, vous-même expert en questions politiques.
Bonjour à vous et à votre invité et à tous les téléspectateurs, bien sûr.
Alors aujourd'hui, une question dont on ne parle pas assez souvent, la situation palestinienne, notamment en Cisjordanie, où depuis plusieurs mois déjà, malheureusement aussi, les tensions montent, les jeunes se font tuer un par un. Chaque jour, on dénombre un nombre de morts ou de blessés. L'actualité internationale n'en parle pas du tout ou très peu. Pourtant, les ONG sont actifs et prônent souvent l'alarme en expliquant que la situation dégénère à son paroxysme. Madame Midani, vous-même, vous avez vu les dégâts que cause l'entité sioniste en Syrie avec des attaques régulières par le biais de drones ou par le biais d'attaques de missiles directement sur les civils. Que pensez-vous de la situation à l'heure actuelle en Cisjordanie ?
Écoutez, je pense que Israël, d'abord, c'est un état d'occupation fantoche qui a été créé par les Américains et les Britanniques, hein, et bien sûr par toutes les et il est défendu par tous les impérialismes internationaux. Donc ça, c'est un point clé de sa création et de sa défense. Maintenant, on comprend, on voit aussi les deux poids deux mesures au niveau de l'ensemble des institutions et des structures à la fois internationales et des structures des médias mainstream, qui en fait, par exemple, quand il y a un Israélien qui est tué, alors c'est, on en parle pendant des plombes dans la presse, alors que quand ce sont des Palestiniens, c'est un mutisme total et on n'en parle même pas. Dans le meilleur des cas, on fait une petite allusion. Donc ça, c'est lié à ces structures internationales qui sont aujourd'hui malheureusement à la solde des Américains, qui ne ratent pas une occasion pour affirmer leur soutien inconditionnel à cet État fantoche d'Israël et à leur défense totale, systématique, etc. D'ailleurs, on voit récemment, lorsque dans la visite du ministre israélien de la Défense, en fait, et même Yair Lapid, etc., en fait, quand ils sont partis aux États-Unis, à chaque fois, tous les responsables américains affirment et réaffirment leur soutien. Je voudrais rappeler quand même les soutiens abusifs, hein, qui ont été systématiquement donnés à Israël, font que effectivement, il continue dans ses crimes sans toute impunité, même des crimes contre l'humanité, même des génocides, même en bravant toutes les lois internationales de défense aussi des peuples des pays occupés. Il continue effectivement à braver toutes ces règles et toutes ces lois. Mais aussi, pareil, alors depuis, dans les attaques systématiques contre la Syrie, ce sont aussi des attaques illégales aussi qui violent le droit international, qui violent les droits qui violent tout en fait, et qui s'attaquent en plus à des cibles civiles en Syrie, et ils prétendent qu'ils défendent leur sécurité, ils défendent leur sûreté nationale. Donc, on voit tout ça, et c'est vraiment, c'est une source, je dirais, de grande révolte dans les pays et dans les peuples arabes, chez les peuples arabes et chez tous les peuples du monde. C'est deux poids, deux mesures. C'est ce soutien inconditionnel à un État fantoche qui a usurpé les terres des autres, qui commet tous les jours des crimes contre l'humanité, qui commet tous les jours même des grands massacres. Et tout ça en toute impunité, dans le silence total des médias, voire le soutien, ou quand on en parle par le petit bout de la lorgnette, hein. Et toujours, je voudrais aussi dire, en disant, ce sont les Palestiniens qui sont responsables. Alors, ce sont les Palestiniens qui ont la décision, qui sont responsables de ce qui se passe en Palestine, alors que c'est un peuple déterminé qui ne fait que se défendre, défendre ses droits les plus élémentaires. Les plus élémentaires, aussi bien sous occupation ou même pour mettre fin à l'occupation, son droit de se battre contre un ennemi qui occupe son pays, qui usurpe ses droits, qui vole ses terres, qui vole ses ressources et qui tue systématiquement ses jeunes. Donc, moi, je dirais, c'est en fait, malheureusement, ces structures internationales sont complètement aveugles sur le droit des peuples et notamment sur le droit des peuples palestiniens. Il faudra les réveiller, il faudra vraiment agiter ciel et terre pour qu'ils commencent à réagir. Et je crois que ça, c'est une des batailles que les Palestiniens mènent aussi au niveau de ces instances internationales, parallèlement à la lutte armée, à la lutte pour leur... pour leur libération sur le territoire.
J'essayais d'expliquer qu'en fait, c'est qu'une partie du globe, finalement, où il y a eu peu de soutien, parce qu'on a vu des pays d'Amérique du Sud remettre au niveau central la question palestinienne, puisqu'ils sont devenus de gauche. Nous avons eu également des pays arabes, comme les dernières réactions positives concernant la résistance palestinienne, où les gens réen parlent. Et c'est l'autre côté du miroir, donc là où sont les tribunaux, là où sont par exemple la CPI, etc., qui eux ne réagissent pas.
Parce que... En fait, il y a eu quelques réactions du côté de la CPI ou du côté d'un tribunal international, mais en tout cas, étant donné que l'État fantoche d'Israël est largement soutenu par les Américains, il ne prête aucune importance à ces condamnations, d'une part, et voire même les personnes qui ont été à l'origine, effectivement, de ces condamnations, c'est-à-dire les juges, etc., ils ont été même interpellés par les Américains et pour faire pression sur eux pour revenir en arrière sur leurs témoignages et sur leurs décisions. On a vu aussi que l'État fantoche d'Israël a été condamné à un moment donné comme un État par l'ONU, comme un État raciste et fasciste. Et 2 ans après, il y a eu des pressions pour retirer cette décision, même de l'ONU. Donc, on voit quand même qu'il y a une... c'est pas seulement deux poids, deux mesures. Il y a un soutien de l'agression qui est absolument décidé et déterminé de la part des Américains et de la part des grandes solutions, des grands pays qui dominent ces instances internationales.
Merci, Mme Idani, excusez-moi de vous interrompre. Donc, Monsieur Amrouni, de retour. Monsieur Amrouni, vous êtes à Paris, donc de l'autre côté, j'ai envie de dire, du miroir, là où l'actualité est présentée de manière quand même extrêmement différente. Il faut imaginer quand même qu'en Palestine, les parents, les familles, voire leurs jeunes, quel que soit leur âge, parce qu'on parle quand même d'enfants de 7 ans qui sont morts. On ne parle pas forcément de jeunes de 20 ans, de 30 ans ou de 40 ans. On parle de jeunes qui s'en vont à l'école, par exemple, et qui ne reviennent pas à la maison, ou qui sont arrêtés, soit tués, soit arrêtés. Bien qu'il y ait eu des condamnations internationales, Israël n'a jamais été sanctionné pour ses actes anti-humanité. Les gens ont très peu réagi, finalement, à des actes barbares. Et en Cisjordanie, j'aime le souligner, ces derniers mois a atteint son paroxysme, et sans la fosse au lion, sans ce nouveau groupe qui ne se présente pas comme un groupe.
La question est à moi
Non, à Monsieur Amrouni. À Monsieur Amrouni, puisque Monsieur Amrouni est de retour.
Oui, bonjour tout le monde. Bien sûr, vous savez, l'agression israélienne et la colonisation sioniste qui dure depuis 7 décennies, maintenant même plus, depuis 47 ans. Donc, cette agression continuelle contre la population palestinienne, contre la jeunesse palestinienne. Et ce qui est très intéressant, c'est cette agressivité contre l'avenir de la Palestine. Car c'est quoi les enfants? C'est quoi la jeunesse? C'est l'avenir d'un pays. Et donc, l'entité sioniste sait très très bien que l'avenir d'Israël, elle est en lien avec la jeunesse palestinienne. Et cette jeunesse palestinienne n'a jamais cessé de lutter contre l'occupation sioniste. C'est ça qu'il faut bien le préciser. C'est vrai, c'est-à-dire l'Occident à sa tête, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, etc., ils ont toujours soutenu l'effort de guerre d'Israël. C'est-à-dire que l'Occident, il est complice dans la tuerie de tous les musulmans, de tous les arabes et de tous les palestiniens. Ce sont des complices, ce n'est pas simplement des alliés d'Israël. Ce sont eux qui soutiennent cette agressivité. Ici, par exemple, les médias ou certains hommes politiques français appellent les Maghrébins des sauvageons parce qu'il y a quelques jeunes dans des banlieues qui veulent défendre leur droit d'être. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler les sionistes ou les Israéliens avec ce qu'ils font contre les Palestiniens? Il faut noter qu'il y a plus que 850 enfants, moins de 12 ans, moins de 12 ans. Ils sont prisonniers. Il y a plus que 2000, moins de 18 ans. Il y a 10 000, entre 10 000 et 15 000 prisonniers palestiniens. Tous les jours, on l'a vu là, il y a quelques jours, 6 martyrs jeunes. Le moyen d'âge, il est de 23 ans. Cette nouvelle génération de la résistance palestinienne, cette nouvelle génération de la lutte palestinienne, avec vous, même dans cette émission, il y a 2 ans, j'ai bien noté qu'il y a une nouvelle forme de résistance. Il y a une jeunesse palestinienne qui n'appartient à aucune fraction palestinienne. Elle n'appartient ni au Fatah, ni au Jihad, ni au Hamas. C'est une nouvelle forme de résistance. Et c'est ça qu'il faut noter, et c'est ça qu'il faut encourager, et sur ça qu'il faut communiquer. Il ne faut pas toujours dire, oui, qu'est-ce qu'ils font les organisations internationales, droits de l'homme. Il n'y a pas de droits de l'homme en Occident. Il y a le droit de l'Occident. Il n'y a plus de droits de l'homme. Ici même, en Europe, on est soupçonné, rien que vous êtes soupçonné de soutenir les Palestiniens ou la Palestine, eh bien vous êtes fiché, vous êtes suivi, vous êtes harcelé. Les Palestiniens qui vivent en Europe et qui sont actifs pour défendre leur peuple, ils sont harcelés par les services. Pourquoi? Parce que l'Occident, il est complice de l'entité sioniste. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une politique étrangère européenne ou française indépendante de ce que dictent les Américains, ce que dictent les Israéliens? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et le problème aujourd'hui, il est global. Et c'est cette jeunesse qui lutte contre l'entité sioniste. En fait, ils ne luttent pas juste contre l'entité qui colonise la Palestine. Ils luttent pour la libération des hommes dans la terre. Parce que le sionisme, c'est un système international. Ce n'est pas Israël. On peut gagner des batailles contre Israël. Mais le combat, il est contre le système. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On mène une bataille pas pour libérer juste la Palestine. On mène la bataille pour libérer les hommes de la tyrannie sioniste internationale. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on rentre dans un nouveau âge, si vous voulez, le New Age. Le New Age, ce n'est pas le bien-être comme on veut prétendre en Occident. Le New Age, c'est un New Age de la résistance dans le monde. Et c'est ça, aujourd'hui, on le voit en Palestine, au Liban, en Irak, en Syrie, au Yémen, mais on le voit en Chine, on le voit en Russie, en Venezuela, on le voit en Afrique, on le voit en Europe. Donc c'est une nouvelle ère de résistance dans le monde. Ceux qui détiennent cette résistance, aujourd'hui, c'est la jeunesse palestinienne. C'est pour cette raison qu'on fait le blackout au niveau de la communication en Europe. On n'en parle pas ou on en parle peu. Pourquoi? Parce que la jeunesse européenne, elle est liée à cette jeunesse palestinienne. Et c'est ça qu'il faut forcer. Il faut montrer cette nouvelle jeunesse qui lutte pas simplement contre l'occupant israélien, mais contre un système impérialiste sioniste international.
Merci Monsieur Amrouni pour ces propos très éclairants. En effet, la situation est dans les mains des jeunes. Madame Midani, avez-vous quelque chose à répondre aux propos de Monsieur Amrouni?
En plus, effectivement, moi je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est le sionisme international qu'il faut combattre, que c'est effectivement, ce sont il est soutenu par toutes les forces impérialistes du monde, donc, et qu'aujourd'hui tous les peuples et les jeunes se rebellent contre cette force de domination et se donnent la main avec le peuple palestinien, devraient se donner la main, comme c'est le cas dans le cadre de l'axe de la résistance, en fait, de tous les pays de l'axe de la résistance qui se regroupent autour des Palestiniens pour les soutenir. J'aurais voulu signaler quand même le soutien total de la Syrie à la lutte du peuple palestinien qui n'a jamais cessé, et que aujourd'hui le retour de l'ensemble des organisations palestiniennes à Damas est quelque chose, c'est un fait assez historique et important dans le fait de l'unité, je dirais, de la reconstitution de l'unité au sein de l'axe de la résistance. Je voudrais aussi ajouter la résistance du peuple libanais contre ces agressions répétées israéliennes, la résistance du peuple yéménite aussi contre les agressions de certains complices d'Israël qui sont les agressions israéliennes, mais aussi saoudiennes. Toutes ces pressions qui se font contre les États officiels, les États du Golfe et l'Arabie saoudite, etc., et qui sont contre nature de leur peuple. Mais en fait, il y a eu effectivement un mouvement de normalisation des rapports de certains gouvernements avec l'État d'occupation, mais ça ne change rien à la réalité que les peuples de ces pays, par exemple le Bahreïn, les peuples bahreïniens, le peuple yéménite, le peuple égyptien et le peuple jordanien, qui aussi, ils sont toujours très liés au peuple palestinien et à la lutte du peuple palestinien. Et en fait, ce renouveau, je dirais, ce réveil, ce nouveau réveil du peuple palestinien, de la jeunesse palestinienne, y compris de la jeunesse, en fait, des zones occupées en 48, alors que les Israéliens ont voulu diviser les Palestiniens en différentes zones, etc. Ben maintenant, on voit une unité dans le combat sur le terrain qui oblige aussi les organisations, les différentes organisations palestiniennes à s'unir dans la lutte, à soutenir cette révolution ou cette révolte, on peut dire ce mouvement de libération lancé par la jeunesse, alors que les Israéliens pensaient que toute cette jeunesse allait oublier et que les vieux allaient mourir et que les jeunes vont oublier que leur pays c'est la Palestine. Donc en fait, aujourd'hui, je qualifierais ça d'une renaissance du mouvement palestinien au niveau des peuples, mais au niveau pas seulement du peuple palestinien, mais au niveau de l'ensemble des peuples arabes. Je voudrais aussi souligner et rendre hommage au peuple algérien qui fait énormément d'efforts aussi pour réunifier les directions des organisations palestiniennes et qui essaye aussi d'unir l'ensemble des pays arabes autour de la révolution palestinienne.
Merci,
et autour
Madame
du peuple palestinien.
Merci,
en
Madame Midani.
Effectivement, comme objectif, le soutien total à la Palestine.
Merci, Madame Midani. Donc le temps commence à manquer. Monsieur Amrouni, pour conclure avec vous, l'avenir, c'est quoi?
Allô.
Monsieur Amrouni, Monsieur Amrouni, vous m'entendez?
Oui.
Je disais, pour vous, oui. Selon vous, selon ce que vous voyez en Europe, mais ce que vous sentez par rapport au Moyen-Orient, ça serait quoi l'avenir maintenant de cette résistance et de ce nouvel âge?
Ben, l'avenir, il est très positif. Il faut noter qu'on a besoin des leaders. Aujourd'hui, il y a un manque de leaders. Le grand leader du monde arabe aujourd'hui, c'est le président Bachar el-Assad. C'est la Syrie. C'est cette présidence du monde arabe qu'il faut, il faut la montrer. Peut-être le président Bachar el-Assad, il est très humble. Et même les hommes politiques syriens, ils ne font pas attention à cette identification du leader. Il faut noter que les Arabes, les Palestiniens à l'intérieur, à Nablus ou à Jenin, ils montrent le drapeau syrien. C'est-à-dire, à côté du drapeau palestinien, il montre le drapeau syrien. Ça montre que le leader, c'est la Syrie. La Syrie, il faut qu'elle prenne sa place. Et c'est pour cette raison que l'entité sioniste, elle bombarde tous les jours presque Damas. Donc, c'est le symbolisme qui est important. C'est le leader qui est important. C'est la communication sur la résistance militaire, la résistance politique, la résistance dans la communication, dans la culture, qui est très importante. Importante aujourd'hui. On est dans une phase au niveau mondial propice à cette nouvelle renaissance, comme bien noté votre invité de Damas, et propice aussi à toutes les forces qui montent en Russie, à la République islamique iranienne, en Chine et même en Amérique latine et en Afrique. Donc c'est le moment d'unifier l'action palestinienne et d'unifier la résistance arabe.
Merci Monsieur Amrouni, merci Madame Aïssar Midani pour votre coopération au sein de ce débat. Le sujet, on pourrait en parler de longues heures parce que malheureusement il est grave, il est important, il représente également l'avenir de beaucoup de territoires au Moyen-Orient. Nous, on vous a présenté une actualité, on vous en présente d'autres. À vous de faire votre point de vue. Ici c'était Presse TV à partir des studios de Téhéran.
Pourquoi les États-Unis et leurs satellites ont-ils besoin d'agiter la menace nucléaire contre la Russie ? La facilité avec laquelle les médias français reprenant le discours atlantiste envisagent une frappe nucléaire à Kherson est non seulement malsaine, mais inquiétante. Cette rhétorique est propagée sous couvert des propos de l'ambassadeur d'Ukraine en France cache mal cette provocation nucléaire atlantiste dont la Russie s'inquiète et qui pourrait avoir des conséquences significatives non seulement pour la suite du conflit, mais en ce qui concerne les relations internationales pour une longue période à venir. Car si les relations entre les pays atlantistes et la Russie sont déjà au plus mal, nous atteindrions alors un point de non-retour pour les générations à venir. Difficile de trouver ces derniers jours un média français qui ne soulève pas la question du recours à l'arme nucléaire par Moscou à Kherson, où l'armée russe a arrêté toutes les offensives de l'armée atlantico-ukrainienne ces derniers temps, lui causant des pertes significatives et en hommes et en armement. Kherson, que la Russie a intégré dans son territoire national. Quel serait alors l'intérêt pour l'armée russe de recourir à l'arme nucléaire sur son propre territoire, sur sa propre population ? Aucun, en revanche, provoquer une explosion nucléaire à Kherson qui serait ensuite imputée à la Russie entrerait parfaitement dans l'intérêt du clan atlantiste. La Russie deviendrait un état criminel pour avoir utilisé l'arme nucléaire. La Russie perdrait des alliés sur la scène internationale. Un grand show politico-médiatique serait lancé à côté duquel le crash du Boeing de la Malaysia Airlines dans le Donbass ayant conduit à l'arrêt net de l'avancée de l'armée du Donbass serait un conte pour les enfants et ainsi, en fin de compte, les États-Unis tenteraient de surcroît avant les élections intermédiaires de réduire à néant les efforts de Moscou pour renverser la situation qui commence par ailleurs à porter leurs fruits. Le but de cette provocation nucléaire pour le clan atlantiste serait de produire un choc psychologique et politique d'une telle intensité qu'il remanierait et brouillerait totalement les cartes concernant la bataille d'Ukraine. C'est bien dans cette logique que la Russie prévient des dangers de la tentation de l'utilisation d'une bombe sale par l'armée atlantico-ukrainienne à Kherson ou ailleurs. Sans même parler du désastre humain et écologique suite à la contamination par une longue période, cela sonnerait également l'entrée dans une très longue période glaciaire entre les Atlantistes et la Russie. Ces derniers 5 jours, de nombreux coups de téléphone ont eu lieu entre le ministre russe de la Défense et son homologue américain, puis avec la France, la Grande-Bretagne et la Turquie. Le chef de l'état-major russe et la diplomatie sont également entrés dans la danse pour tenter de faire revenir tout ce petit monde à la raison. Voici un rapide résumé de la situation présentée hier après-midi sur le site d'information TASS. En ce qui concerne les déclarations du ministère russe de la Défense, le ministère russe de la Défense a mis ses forces et ses moyens en état d'alerte pour agir dans des conditions de contamination radioactive, car il dispose d'informations concernant la volonté de Kiev d'utiliser une bombe sale. Le ministère de la Défense dispose d'informations selon lesquelles Kiev envisage de faire exploser une bombe sale en Ukraine pour intimider les résidents locaux et accuser Moscou d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Le plan de la partie ukrainienne, selon le ministère, est de faire passer l'explosion d'une bombe sale comme le fonctionnement anormal d'une arme nucléaire russe de faible puissance. Selon le ministère, 2 organisations ukrainiennes ont des instructions précises pour créer ces armes et leurs travaux sont au stade final. De plus, comme l'a dit Kirillov, le ministère de la Défense dispose d'informations sur les contacts de l'office du président de l'Ukraine avec des représentants de la Grande-Bretagne sur la question de l'obtention éventuelle d'une technologie pour créer des armes nucléaires. L'Ukraine, a souligné le général, possède des matières premières pour la bombe sale dans ses centrales nucléaires, y compris Tchernobyl, et des entreprises minières ainsi que la base scientifique nécessaire à Kiev et Kharkov. En ce qui concerne le ministère russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov a fait plusieurs déclarations. Les informations sur la préparation d'une bombe sale par Kiev ont été revérifié et ce n'est pas une vaine accusation de Moscou, a souligné Lavrov. Selon Sergei Lavrov, Moscou a l'intention de soulever cette question à l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères a également assuré que la partie russe disposait d'informations sur les organisations ukrainiennes spécifiques impliquées dans la bombe sale. Il ne les a pas nommées. Les déclarations publiques de méfiance de l'Occident à l'égard des avertissements russes ne signifient pas que les informations de Moscou sont prises à la légère dans les discussions internes, a déclaré le ministre. En effet, tous les pays atlantistes ont immédiatement déclaré n'être au courant de rien et les États-Unis avec la France et la Grande-Bretagne se sont fondus d'une déclaration commune ne laissant aucun doute quant à leur intention d'aller jusqu'au bout. Personne ne serait dupe si Moscou prenait prétexte de l'emploi par Kiev d'une bombe sale évoquée par le gouvernement russe, affirment Paris, Londres et Washington dans une déclaration conjointe. Dans ce texte, les 3 ministres des Affaires étrangères rejettent les allégations à l'évidence fausse de Moscou selon lesquelles l'Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire. Personne ne serait dupe d'une tentative d'utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade. La Russie s'est adressée à l'ONU demandant une réunion du Conseil de sécurité sur cette question pour aujourd'hui, mardi 25 octobre. Selon Nebenzia, le représentant de la Russie à l'ONU, l'utilisation d'une bombe sale serait considérée par Moscou comme un acte de terrorisme nucléaire. L'escalade du conflit continue son cours puisqu'il ne peut être question de concessions, comme le reconnaissent les États-Unis eux-mêmes. C'est l'existence de leur monde qui est en jeu.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.